qui est le terme pour dire inengendré et agenetos. Je veux dire incréé, eh bien, il les identifie, pas qu'il était mauvais en latin, hein, mais en grec, pardon, il les identifie, et donc ce qui est engendré pour lui est nécessairement créé. Donc le Fils, donc le seul qui n'est pas créé, c'est en même temps celui qui est inengendré. Donc voilà, inengendré égale incréé, engendré égale créé. Voilà, ça c'est le raccourci théologique de Darius. Alors, évidemment, il va noyer le poisson en Alexandrie, on a beaucoup. Il va noyer le poisson en citant toutes les perfections que possède le Christ. Donc, il a de nombreux privilèges. Mais cependant, c'est une créature. Et étant une créature, il n'est pas divin. Hein, voilà. Il n'est pas coéternel du Père. Donc ça, c'est la position d'Arius.
Mais qu'est-ce qui fait de ce que dit le Christ de lui-même dans l'Évangile ?
C'est-à-dire que c'est le problème de l'hérésie, c'est que dans une hérésie, on choisit, hein, on fait un choix. Donc ils vont choisir, donc les arianistes, les ariens, vont choisir les passages où, par exemple, Jésus dira... qu'il ne connaît pas le jour, où il va dire le Père est plus grand que moi. Alors s'il est plus grand, c'est qu'il est divin et moi je ne suis pas divin. Parce que s'il était divin, on serait égaux. Voilà. Et donc ils vont utiliser les passages du Nouveau Testament qui soulignent l'infériorité du Christ. Et évidemment, ils vont éviter les passages qui soulignent son égalité. Hein, le Père et moi sommes un. C'est aussi dans l'Évangile. Hein. Ouais. Mais ça, Arius ne le prend pas en compte. Et puis tous les textes pauliniens qui parlent de la divinité du Christ. Hein, parce que quand on utilise le terme curios, Seigneur, hein, qui veut dire monsieur aussi, mais ça signifie dans le langage biblique. Dans le grec biblique, c'est le mot qu'on utilise pour désigner Dieu, le Seigneur. Oui. Alors donc, voilà la position. Donc à cette époque, c'est certain qu'on ne fait pas une distinction entre... Vous voyez, on dit hypostasis, c'est à la fois la personne et la substance. Et étymologiquement, c'est la substance. Mais par exemple, on ne distingue pas avec l'ousia, qui est l'essence. Donc on peut dire qu'il y a... On aurait pu dire qu'il y a une essence divine et trois réalités divines en elle. Mais d'ailleurs, si on dit trois hypostases, on aurait trois substances, qui voudrait dire en fait qu'on aurait trois dieux. Donc, c'est pour ça aussi que des gens comme Arius et un certain nombre d'Ariens se disaient on ne peut pas dire trois substances divines, parce que là, on tombe dans le polythéisme. Vous voyez que l'arianisme n'est pas simplement une idiotie ou juste de la mauvaise volonté. C'est que aussi on se heurte à des obstacles de terminologie qui fait qu'on est gêné. Si on dit d'un côté, voilà, ça, on n'a plus qu'un seul Dieu et plus de Trinité. Et sinon, on a trois dieux et donc plus de monothéisme non plus. Donc on est coincé. Et on n'a pas encore fait cette distinction. C'est justement, ce sera le rôle des pères cappadociens de distinguer entre l'essence et la substance. Puis plus tard, on verra avec les personnes aussi. Alors, on finira par dire, par exemple, Constantinople 1, on ne va pas utiliser le terme essence, on va utiliser le terme de nature, donc la physis. Donc, une seule nature divine. Et trois hypostases. Non, je dis hypostase pour éviter de traduire par substance.
Parce qu'il n'est même substance, c'est consubstantiel.
Voilà. Donc trois Sulfuris et trois hypostases. Alors, hypostase, ça sera traduit par personne. Et personne. Enfin, vous allez voir qu'avec le latin, ça va encore embrouiller les choses, parce que ce que les uns comprendront comme substance, les autres le comprendront comme personne. Donc, ça. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a un autre terme qui arrive, qui fera son apparition, qui va un peu résoudre la question du côté des Grecs, c'est le terme prosopone. Qui sera traduit par persona en latin. Et en fait, ça va être. C'est ce terme qui va être utilisé pour les personnes divines, en particulier pour celle du Christ dans le concile de Constantinople, de Chalcédoine, pardon. Et là, on dira que, de fait, l'unique personne du Christ possède deux natures, là, pour le coup. Alors là, c'est Fuseis. Enfin, voilà. Pour l'instant, vous voyez que, d'un côté, on risque de tomber dans le trithéisme, dans le polythéisme, et de l'autre côté, on risque de tomber dans un monothéisme patrinitaire. Voilà où se situe la difficulté. Alors, c'est, donc, Arius, lui, il défend Mordicus le monothéisme, mais du coup, il exclut le Fils et le Saint-Esprit de la Trinité, donc il n'y a plus de Trinité. Alors Athanase, il sent que ce n'est pas juste. Alors Athanase, qui est-il? Alors on pense qu'il est né en 300. À certains moments, on disait qu'il était né en 295. En fait, l'âge légal pour être patriarche, c'était 33 ans. Et comme il devient... Il n'avait pas l'âge légal. Oui, on pensait. Voilà, c'est pour ça. On pensait qu'il était né en 295 parce qu'il fallait avoir 33 ans pour être patriarche. Or, il devient patriarche en 328, donc on pense qu'il était né en 295. Sauf qu'on s'est rendu compte après qu'il est devenu patriarche avant d'avoir l'âge canonique.
Comme Richelieu.
Oui, voilà. Donc il a été. Les historiens pensent qu'il est plutôt né en 300. Bon. Alors, surtout, qu'il avait été au concile de Nicée, je vous l'avais dit déjà, il avait été le secrétaire. Du patriarche d'Alexandrie. Et donc, comme je vous ai parlé de l'école d'Alexandrie, avec Clément, Origène, etc., donc c'était, vous voyez, toute une école plutôt de théologiens, intellectuels, etc. Et en fait, lui, il n'est pas passé par cette école plutôt spéculative. Il est plutôt un produit de l'administration patriarcale, donc c'était un fonctionnaire du patriarcat. Et donc il a une vision moins spéculative des choses, mais plus pratique. Visiblement, il était issu d'une famille païenne, aisée, donc cultivée. Voilà. Donc voilà le personnage. En 335, comme il s'oppose à l'arianisme qui gagne de plus en plus de zones et d'évêques aussi, il est sommé de comparaître à un synode d'évêques qu'on appellera le brigandage de Tyr.
Celui des fers.
Voilà. Et donc une assemblée d'évêques où il est sommé de répondre à de supposés crimes parce qu'on veut le destituer puisqu'il résiste à l'arianisme. Alors, le schismatisme qu'on l'accuse d'avoir tué, parce qu'on disait, regardez, il tue ses adversaires, apparaît à l'Assemblée vivant, disant que personne ne l'a tué. À un moment, on l'accuse d'avoir eu des relations avec une prostituée. Alors, on fait comparaître la prostituée qui désigne un autre évêque. Donc, ce qui crée évidemment
un boulevard.
J'ai
Donc hilarité générale. Donc alors, enfin finalement, c'était quand même pas très très bien, pas très très bien organisé. Leur brigand, leur c'était oui, voilà, tout à fait des fake news. Donc il défend son bon droit et auprès de l'empereur Constantin. Et évidemment, il est rétabli sur son siège d'Alexandrie. Mais il va quand même être, exilé, parce qu'il gêne. Et premier exil aura lieu à Trèves. Trèves, c'est une des grandes villes, c'est une des deux grandes capitales de l'Occident, de l'Empire d'Occident. Et il fait connaissance des évêques locaux, des évêques de Germanie et de Gaule, qui va gagner à son combat contre les Ariens. Et ça, c'est bien parce que tout l'Occident, à partir de cet exil-là, va basculer dans l'orthodoxie, parce qu'ils étaient aussi appuyés sur Ossius de Cordoue. Donc l'Hispanie était restée fidèle à Nicée, et puis l'évêque de Rome qui restait aussi fidèle à Nicée. Mais, disons, les autres évêques vont être marqués par la personnalité d'Athanase. Et en même temps, ils vont pouvoir se documenter à temps avant que l'hérésie gagne leur région. Ils vont être sensibilisés au danger. Alors ensuite, ils retournent à Alexandrie en 37. Et puis à nouveau, il est exilé en 39. Jusqu'en 46, parce que de retour d'exil, il avait animé un réseau d'environ 400 évêques, enfin il faut dire qu'il y avait des évêques dans toutes les chefs-lieux de canton, hein, en Égypte et dans les régions voisines. Il écrit des ouvrages doctrinaux, et l'empereur Constant, qui veut surtout pas de vagues, qui veut rester dans le flou, eh bien l'exil, parce qu'il considère que il rompt cette espèce d'unité de façade de un peuple, un peuple, justement, il y aurait beaucoup de peuples, mais un État, une religion. Et alors, donc, il file à Rome, et là, justement, il va aussi, encourager le pape à étudier la question et le fortifier dans ses convictions nicéennes. Puis il revient. Pendant 10 ans, il sera à peu près tranquille. Et il va être obligé de se cacher pendant 5 ans à nouveau dans le désert d'Égypte. Hein, c'est pas pour rien qu'il écrira plus tard la vie de saint Antoine. Et alors c'est là que c'est rocambolesque, parce qu'il continue à correspondre avec son réseau d'évêques plus ou moins clandestins, un peu comme, je pense, l'église clandestine de Chine aujourd'hui. Hein. On raconte qu'une fois, il était allongé dans une barque sur le Nil, recouvert de tissus et de marchandises, et que c'est comme ça qu'il a échappé à la police impériale qui faisait des barrages fluviaux pour essayer de repérer où était l'évêque. Donc, donc il échappe, et il continue de... Et puis alors après, à la mort de Constance, qui est un autre empereur semi-arien, il revient et il va poser les jalons de sa théologie trinitaire. Parce qu'une chose est de dire Arius a tort, mais il faut essayer de le prouver. Et il va le faire dans un texte qu'on appelle le Tomus Adantokienos, donc un document, un volume adressé aux Antiochiens, où il dit qu'il y a 3 hypostases en Dieu. Alors, donc, 3 hypostases, pas au sens de 3 substances, mais de 3 réalités qui existent dans le Dieu unique. Et il va notamment souligner la divinité du Saint-Esprit, hein, que parmi les 3, il y a le Saint-Esprit. Et il va être exilé par Julien. Alors, Julien, là...
L'apostle ?
Oui. Là, pas vraiment parce que à cause de son orthodoxie, mais tout simplement à cause qu'il est chrétien. Mais vous savez que Julien va mourir assez vite dans une campagne militaire, et il va revenir sous Jovien, donc qui va mourir très vite, hélas aussi, et du coup, nouvel exil, parce que le successeur, Valens, bannit les évêques nicéens, et Athanase donc repart se cacher, ça sera son cinquième exil. Remarquez, vous voyez, on est quand même à l'époque romaine, une époque civilisée, hein, on ne tue pas les gens, on les exile.
Ah, c'était mieux
que... Les empereurs passent et les évêques restent.
Ah oui, alors là, pour le coup, surtout Athanase. Hein. Et alors, donc là, cinquième exil de 365 à 366. Voilà. Et là, il va écrire ça, notamment quand il revient, il va juste revenir en 366, il va écrire l'année suivante sa 39e lettre pascale, puisque tous les ans, il écrivait une sorte de message un peu long à tous les évêques de son patriarcat. Et dans cette 39e lettre, on a le canon des Écritures. Donc le canon des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament que saint Augustin se procurera et fera. Et saint Augustin va à l'époque où il se bat contre Donna et toute cette bande en Occident, en Afrique, eh bien, il veut savoir quels sont vraiment les livres inspirés ou pas inspirés. Et du coup, il fait une enquête en Orient et il se procure la lettre d'Athanase. Et après, c'est nous, à ces synodes d'Hippone et de Carthage de début du 5e siècle, qu'on aura la liste des livres bibliques qui sont repris par le Concile de Trente et par le Concile de Vatican II. Donc, ils sont... voilà. C'est à partir de là, vous voyez, qu'on a la liste des Écritures. Alors... Donc, revenu dans ses fonctions en 366, il va rester 7 années, les 7 dernières années de sa vie, tranquille, sur son siège d'Alexandrie. Donc, vous voyez, il aura été 328 à 373, 45 ans de règne, sachant que les patriarches d'Alexandrie étaient quasiment comparés à des pharaons pour leur... enfin, disons, leur pouvoir, leur puissance, enfin, leur prestige. Alors, comme je vous disais, il n'était pas passé par l'école, la didascalie d'Alexandrie. Donc, c'était plus un pasteur qu'un docteur, d'une certaine manière. Hein, et qui a dû, donc, souvent recourir à la polémique. Alors, dans ses premières années... Il avait écrit un discours contre les Grecs, c'est-à-dire en gros contre les païens, et un autre discours sur l'incarnation du Verbe, donc pour, justement parce que ça répugnait à l'esprit païen grec que la divinité incorporelle puisse s'unir à cette humanité périssable qui est la nôtre. Alors, son idée, c'est une idée qui est puissante, c'est que seule l'incarnation du Verbe pouvait racheter l'humanité déchue, car, pour reprendre il reprend la phrase de saint Irénée, « Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé ». Donc, pour pouvoir sauver l'humanité, il fallait partager sa condition. Et vous retrouvez ça dans saint Paul, hein, c'est en toute lettre dans saint Paul. Donc ce qui n'est pas assumé ne peut pas être sauvé. Donc Dieu ne peut nous sauver qu'en venant à partager notre condition pour que de l'intérieur, sinon ça serait un geste magique, vous voyez. Dieu, de l'extérieur, sauve l'humanité. Donc en fait, il vient à l'intérieur comme la subvertir dans le bon sens, c'est-à-dire là. La réparer de l'intérieur. Voilà. Alors, il écrit d'autres choses, une exposition et un commentaire des psaumes, aussi un traité sur la virginité. C'est important, puisque vous savez que la question de la virginité, c'était une question qui était complètement absente dans la pensée sémitique, et que c'était une absolue malédiction de ne pas avoir d'enfant. Donc, du coup, il fallait être nécessairement marié, que c'était aussi une malédiction de ne pas l'être. Dans le monde grec, c'était plutôt l'idée que la virginité, c'était bien parce que tout ce qui est de l'ordre de la chair, c'est sale, quoi, ça souille l'âme. Et dès l'instant quand son âme s'éveille en soi, eh bien, il faut se départir de tout ce qui est charnel. Et là, l'idée chrétienne de virginité qui va se développer, c'est que la virginité est en fait la partie visible d'une sponsalité invisible. Autrement dit, on est vierge, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est marié à l'incorporel, on est marié à l'invisible. Et donc, la recherche de l'incorporel, de l'invisible, du divin, elle est plus sur le mode néoplatonicien où on quitte l'ordre de la matière pour essayer de tendre asymptotiquement vers le divin, dans une sorte de quête, on pourrait dire, individualiste, hein, malgré tout. Donc, c'est plutôt conçu sur le mode biblique comme des épousailles. Voilà, tout simplement, puisque globalement, l'idée d'alliance dans l'Ancien Testament, elle est passée, on pourrait dire, d'un contrat de vassalité avec Abraham, à progressivement à l'idée de noces entre Dieu et son peuple, puis après du Christ et de l'Église. Et c'est justement cette idée centrale que vous trouvez dans l'Épître aux Éphésiens, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi, qui va commencer à être mise en pratique par les premiers ascètes chrétiens. Donc très rapidement, on a eu l'ordre des vierges qui s'est mis en place, et l'ordre des veuves, et ça s'est développé parce que ça s'est mis en pratique tout simplement parce que c'était senti par les chrétiens. Et vous savez que très souvent, la théorie justifie la pratique. On va ensuite produire des traités pour justifier une pratique qui choque d'une part le monde sémitique et de l'autre côté qui change le sens de ce qu'elle avait chez les Grecs, par exemple.